Ça maintenant. Vous savez, récemment j'ai reçu un appel téléphonique. C'était une dame d'un certain âge. J'entendais dans la voix. Et bien sûr, il y a l'échange classique de allô, 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 vous m'entendez? Et puis j'ai senti que ma voix, c'était pas ce qu'elle cherchait. Et ensuite, alors elle me dit, mais vous, qui êtes-vous? Ben je dis, je suis Steve Barnes, le pasteur de l'église évangélique baptiste à Fréjus. Et elle dit, ah, je voulais la mairie. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais comme j'avais dit que j'étais pasteur, alors elle a vite ajouté, elle dit, mais vous savez, je suis croyante, hein. Bon, la question là, c'est qu'est-ce que je devais comprendre de cette expression, je suis croyante? Parce que ça se dit, hein, les Français sont très laïcs, mais il y a quand même beaucoup de croyants. Et rien ne les empêche d'être croyants. Mais après, qu'est-ce que je devais comprendre? C'est que je ne suis pas athée? Ou est-ce que je devais comprendre, je suis une catho? Mais bon, après, là, je ne sais pas si elle est pratiquante ou non pratiquante. Ça ne le dit pas. Hein, parce que même on peut être non pratiquant. Et puis avoir été baptisé, et puis avoir fait sa confirmation, et puis après on attend le mariage, et puis s'il y en a un, et puis après il y a l'enterrement, et on peut être catholique, hein, donc on est croyant. Hein. Mais est-ce que ça suffit? Et surtout la question que je me pose, c'est que en disant qu'elle est croyante, est-ce que cela veut dire qu'elle est sauvée? Dans le sens que elle sera avec le Seigneur quand elle quittera la terre. Et je vais prendre, ça va être très simple ce matin, mais c'est prendre le temps, et le titre de mon étude, c'est À quel moment suis-je assez croyant pour être sauvé? À quel moment suis-je assez croyant pour être sauvé? Parce que tous les croyants ne sont pas sauvés. Nos amis musulmans sont croyants, nos amis juifs sont croyants, tous les monothéistes sont croyants. Et puis après, il y a tout un monde qui nous entoure. Notre culture occidentale est basée sur le fait d'un peu d'être croyant, même si ça diminue. Mais est-ce que tout ce monde est sauvé? Ces paroles que nous connaissons si bien. C'est le Jean 3,16, vous le connaissez certainement par cœur, mais il nous dit, car Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné gratuitement son Fils unique. Le seul, hein, c'est pas qu'il en avait 12 et puis il a dit, bon, je peux en sacrifier un. Hein. Non, non, il a un seul, son Fils unique, celui en qui il avait placé toute son affection. Il dit, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, parlant de la mort éternelle, périsse point, mais qu'il ait, pas qu'il aura, qu'il gagnera, qu'il pourra avoir, non, qu'il ait la vie éternelle. Et vous vous souvenez à qui il disait ces paroles? C'était Nicodème. Nicodème, un docteur dans la loi, quelqu'un qui connaissait tout l'Ancien Testament, qui connaissait tous les récits, qui les avait discutés. Vous savez comment c'est les théologiens? Ils discutent des choses qui ne changent rien à la vie. Et il avait discuté toutes ces choses. Il y a toutes les raisons de croire qu'il était un croyant. Bon, il était juif, il était dans le judaïsme, il était un personnage reconnu par la communauté religieuse de l'époque. Il y avait toutes les raisons de croire, de penser qu'il était croyant. Et pourtant, Jésus lui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais tu parles à un croyant, Jésus. Tu le sais pas ? Si, il sait tout. Il sait ce qu'on pense, même quand on le dit pas. Hein. J'arrive pas à cacher tout ce que je pense de ma femme. Hein. Elle arrive même à deviner un peu ce que je pense. Et quand on commence, mais Jésus sait tout. Et Jésus lui dit, tu sais, c'est comme pour lui dire que, tu sais, avec tout ce que tu as, ça suffit pas. Bon, dans un sens, c'est pas gentil, mais dans un autre sens, il lui rend service pour dire, mais puisque tu cherches et puisque tu veux croire, autant bien le faire et croire tout ce qu'il faut croire afin d'avoir la vie éternelle. Et c'est important. Le simple fait que vous soyez là ce matin me montre que pour vous, c'est une priorité. Et ce n'est pas seulement pour vous rassurer, mais c'est en plus parce que vous avez des contacts et des gens autour de vous. Et il y a des croyants autour de vous. On a tous des voisins qui sont croyants. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Et qu'est-ce que je peux leur dire? Et comment est-ce que je peux les aborder? Je prends un autre personnage que vous connaissez bien si vous fréquentez l'église depuis un certain temps. Un autre personnage, c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse, eh bien, lui dit de lui-même, il dit, moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, maman et papa, hein, et grand-père et grand-mère, et tout, on est hébreu. Et il ajoute, quant à la loi, pharisien, les plus stricts dans la loi, c'était les intégristes de l'époque, hein. Il dit, quant à au zèle, eh bien, j'étais tellement zélé au point de devenir le persécuteur de l'Église. Donc, ce n'était pas seulement qu'il est croyant, mais il y mettait, hein, il l'exprimait. Et il dit, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire, moi, eh bien, je suis à la hauteur. Un croyant, mais un croyant extraordinaire, pratiquant. Mais quelque part, sur le chemin de Damas, quand Jésus lui a parlé, tout d'un coup, il s'est senti vraiment pas grand-chose. Tout d'un coup, quand il était face à Jésus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est à peu près tout ce qu'il avait à dire. Et c'est important pour nous aussi parce qu'un jour, il faudra rencontrer le Seigneur. Et si certains d'entre vous que je connais, Cathy, là, tout à l'heure, je l'ai vue, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue, elle m'a dit, ne m'embrasse pas, je suis malade, j'ai dit, je t'embrasse quand même. Est-ce que j'aurai ce sentiment en rencontrant Jésus ou bien je vais faire comme Saul de Tarse, qui, lui, qui était si sûr de lui, ben, il tombait de haut, hein, il tombait de son cheval dans la poussière. Et la chose qu'il fait après avoir vu Jésus, je crois que le premier sentiment, c'est que j'ai eu tout faux. Avec toute ma sincérité, tout mon zèle et tout ça, mais j'avais tout faux. Et quand il part sur Damas, là, puis il passe 3 jours en train de jeûner et prier, tellement il en avait été affecté. Et quand il est sorti de cela, eh bien, il a commencé à prêcher Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort sur la croix pour nos péchés. Il y a quelque chose, il lui manquait quelque chose. Il en avait beaucoup, il avait une connaissance de l'Ancien Testament, c'était la Bible de l'époque, il connaissait tout cela, mais il lui manquait un quelque chose. Mais qui faisait toute la différence. L'apôtre Jacques, dans son épître, il s'adresse aux gens de l'Église, hein, et il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais il ajoute, les démons croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2, 19. Il dit, tu te contentes de dire, de déclarer que tu crois en Dieu? Il dit ça. C'est pas Bézef, hein. Ça suffit pas, hein. Ça va pas loin. Parce que les démons, ils peuvent faire autant. Et on a du monde autour de nous. Hein. Tout à l'heure, je parlais de toutes ces grandes religions du monde où les gens déclarent croire en Dieu. Bon, après, on pourrait discuter. Hein. Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est... Là, c'est une autre... Mais tous déclarent croire en Dieu. Et croire le Dieu unique. Hein, ils le disent. Mais il dit, ça ne suffit pas de croire en Dieu. Il dit, les démons croient. Et ils tremblent, lui, eux. Il dit, et vous, comment est-ce que vous réagissez devant le nom de Dieu? Quand je lis l'Épître aux Hébreux, ça peut être ardu, hein, lire l'Épître aux Hébreux. Il faut d'abord lire l'Ancien Testament, se faire toute une formation là, puis après on peut lire l'Épître aux Hébreux. Mais... il leur rappelle, il leur dit, vous savez, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ces années de pérégrination, et ça durait, c'était pas prévu que ça dure 40 ans. C'était prévu qu'ils sortent de l'Égypte pour entrer dans le pays de Canaan. Et Dieu était en mesure de le faire, il était sérieux, il voulait le faire. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle, nous dit, mais vous savez pourquoi ils ne sont pas rentrés? C'est à cause de leur incrédulité. Pourtant, c'est le peuple. C'est le peuple, à l'époque, c'est l'unique peuple dans le monde qui réclamait l'Éternel comme leur seul Dieu. Et pourtant, Dieu dit, c'est à cause de leur incrédulité. Oui, il y avait la croyance. Il y avait la croyance dans le Dieu unique. Il y avait un respect pour Dieu. Mais il n'y avait pas ce qu'il fallait. Ils n'étaient pas à la hauteur de ce que Dieu réclamait de l'être humain. Et c'est lui qui place la barre, hein, ce n'est pas nous. Si nous, les hommes, on aurait placé la barre, c'est comme l'enfant qui s'entraîne à sauter la corde. Eh bien, il la met très bas pour se sentir bien. Mais Dieu nous la met haute. Il dit, je la mets haute, mais après je vais t'aider à passer par-dessus. Hein. N'essaie pas tout seul, tu n'y arriveras pas. Mais je vais t'aider à passer dessus, mais je la barre jamais haute. Il ne baisse jamais la barre. L'apôtre Paul rencontre à Éphèse 12 hommes. 12 hommes croyants. Et quand on leur pose les questions, eh bien, il dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean, Jean-Baptiste. Alors que tout le monde était en train de faire autre chose, ils étaient parmi ceux qui avaient suivi Jean, entendu l'appel de Jean, l'appel à la repentance. Ils s'étaient repentis, ils avaient été baptisés dans le Jourdain avec... Et ils avaient été fidèles jusqu'à, donc là il y a des années qui s'écoulent. Et l'apôtre Paul les rencontre, il dit, mais ben nous sommes croyants. Nous avons écouté la parole de Jean, et nous avons cru, et nous sommes fidèles. Et Paul gentiment leur dit, mais écoutez, vous savez, il y a des choses qui se sont passées depuis Jean. Il dit, vous souvenez peut-être même que Jean a parlé de celui qui allait venir après lui. Eh bien, il est réellement venu. Et il est mort sur la croix. Et il est ressuscité. Et ben nous, on était sincères. Nous, on croyait à tout ce qu'on avait entendu, tout ce qui nous avait été prêché. Oui, mais il a... Mais maintenant, c'est plus... Et il leur a expliqué... Jésus-Christ, ils ont cru, et là, il y a eu l'approbation de Dieu qui s'est manifestée parce qu'ils ont parlé en langue. Comme ils ont parlé en langue chez Corneille, ceux qui avaient entendu et cru. Il y a eu ce signe qui confirmait que c'était vraiment l'œuvre de Dieu, et Dieu était en train de dire, par ce parler en langue, en train de leur dire, je peux sauver aussi les païens. C'était très important, c'était un signe très important qui confirmait une chose, ça permettait à Dieu de dire, voilà mon sceau. Le même signe qui avait été donné pour les Juifs à Jérusalem, a été donné à Corneille, et puis là, même pour ses disciples de Jean, et Jésus lui-même avait dit de Jean, il a dit, mais c'est le plus grand des prophètes. Vous vous rendez pas compte, mais Jean, il est extraordinaire. Mais ça ne suffit pas d'être disciple de Jean. Vous savez, pour mettre les choses dans le contexte un peu plus moderne, on dit, mais moi, je viens d'une telle église. Moi, j'ai fréquenté... Oh, moi, j'ai reçu le Seigneur sous le ministère d'un tel pasteur. Moi, j'ai eu ceci. Et on fait valoir toutes sortes de choses qui, devant Dieu, ça pèse pas lourd. Hein. Dis-moi, je suis croyant parce que j'ai été... Paul dit, je suis content que j'ai baptisé aucun d'entre vous. Hein. Parce qu'il y a des gens, on aurait eu un mouvement d'église. Nous sommes les descendants de ceux qui ont été baptisés par l'apôtre Paul. Ah, ça, ce serait les gens super. Déjà, être baptisé par David Sauvage, c'est pas mal. Mais devant le Seigneur, ça ne suffit pas. Hein, il vaut mieux que ça. Et, vous savez, nous rencontrons dans toutes ces situations bien des gens croyants, sincères, mais à qui il manquait quelque chose. Et la question... que nous on veut poser, mais c'est quoi ce quelque chose? Je veux être d'abord, premièrement, je veux être sûr que moi je crois ce quelque chose qui est indispensable pour être approuvé de Dieu et reçu par Dieu. Et aussi, je veux savoir ce que c'est pour savoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. Hein, parce que nous sommes tous appelés à être des témoins. Un témoin... c'est pas des sourds-muets qui témoignent, c'est des gens qui parlent. Et qui parlent pas seulement avec leur bouche, il y en a qui parlent trop bien avec leur bouche, mais ils parlent aussi avec leur vie. Hein, c'est le comportement de tous les jours et c'est très parlant. Vous savez, il y avait quelque chose. Jésus, si on l'écoute, et vous savez, je vous encourage à prendre les évangiles et vous concentrer uniquement sur les paroles de Jésus. Hein, vous avez peut-être une édition avec lettres rouges, ça rend plus facile, mais de chercher les paroles de Jésus et de voir qu'est-ce que Jésus a dit, pourquoi il l'a dit et à qui il l'a dit, et dans quel contexte, et qu'est-ce qu'il voulait dire, et les paroles de Jésus. Et vous savez... On entend Jésus qui fait des miracles et souvent on est distrait, c'est parce qu'on est humain, on est distrait par le miracle. Oh, c'était quelqu'un qui n'avait jamais vu et qui reçoit la vue. C'est quelqu'un qui ne marchait pas depuis tant d'années. Et puis on est comme des enfants. On est toujours l'attention va vers ce qui tape à l'œil. Mais essayez de voir ce que Jésus a dit. C'est pas la plus grande chose qu'il a faite pour nous, ce n'est pas le fait de guérir quelqu'un, même si c'était des guérisons qui seraient encore aujourd'hui des guérisons. Avec tous les progrès qu'on a fait dans la médecine, ce sont des guérisons qui seraient c'était des miracles qui seraient encore des miracles aujourd'hui. Hein. C'est ça qui est extraordinaire avec ce que Jésus a fait. Mais c'est que j'entends les paroles de Jésus. Il dit, si vous aviez la foi comme... votre foi est trop petite, plus de foi, qu'il vous soit fait selon votre foi, selon votre croyance. On a l'impression que Jésus, en circulant parmi les Juifs à son époque, eh bien, quelque part, la foi qu'il voyait ne suffisait pas. Il voulait qu'ils aillent plus loin. Et même, je l'ai même entendu, hein, parce que j'ai lu, les deux personnes qui l'étonnent par leur foi, leur grande foi. Ce sont des étrangers, c'était le centenier, qui dit, écoute Jésus, pourquoi tu vas te déplacer? Et puis tout ce monde qui est avec toi, pourquoi déplacer? Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dit, wow, là, ça c'est de la foi. Et puis après, il y avait une femme cananéenne, et puis Jésus était dans un sens, on a l'impression qu'il n'était pas gentil avec elle. Il a dit, ouais, mais bon, on donne pas aux petits chiens, hein, la nourriture des enfants. Hein. Et elle, au lieu d'être vexée, elle a dit, mais non, non. Mais c'est ça, ce qui tombe de la table, mais qui vient de cette table-là que tu stresses, eh bien, ça me suffit largement. Parce que c'est ce que toi, tu sers. Et je m'arrête et je me dis, mais pourquoi Jésus est étonné de leur foi, alors que d'autres ont exercé la foi, hein, quand un lépreux vient et dit, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Ils ont exercé de la foi. Mais quelque part, ça suffit, ce n'était pas ce qu'ils cherchaient. Et je m'arrête et je me dis, mais pourquoi? Qu'y avait-il de plus ces deux étrangers qu'il n'a pas trouvé en Israël, qui était le peuple croyant, le peuple de Dieu. Et je crains que même aujourd'hui, hein, si on prenait le christianisme en général, qui normalement se réclame de connaître et croire en Jésus-Christ, tout ça, je crains que Jésus soit un peu déçu par la foi qu'il trouve dans le christianisme d'aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des individus qui ont cette foi, mais en général, il serait déçu, tout comme il a été déçu avec Israël à son époque. Alors, mon premier point, on vient de le traiter, c'est les croyants, mais perdus, à qui il manquait encore quelque chose. Alors, bien sûr, la question qui vient après, alors qui sont les croyants sauvés? Ou comment être un croyant sauvé? Déjà, le mot croyant, hein, c'est un mot, je n'ai pas défini au début, bon, j'ai un peu fait exprès parce que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Hein, et puis, en fait, il ne veut dire que ce qu'il veut dire à chacun dans sa tête. Hein, mais ce qui importe, ce n'est pas ce que moi je pense de ma foi, ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de ma foi. J'ai une personne que je connais qui me dit, mais moi, non, non, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, j'aime bien dans la Bible, mais ça, je ne suis pas d'accord. Ah non, 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 non. J'ai envie de lui dire, mais monsieur, vous prenez pour qui? C'est lui, Dieu. Ce n'est pas une question. Dieu, on ne l'a pas à notre portée, puis on le façonne à notre manière. Hein. Mais c'est à nous de savoir ce que lui demande et ce que lui pense. Et que je sois à la hauteur de ses exigences. Vous savez, l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre si bien connu, hein, sur la foi, sur le thème de la foi, et il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parlant de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Il n'y a pas un point là. Il dit, c'est nécessaire, c'est indispensable de croire que Dieu existe. Mais le verset, dans Hébreux 11, verset 6, eh bien, il ne s'arrête pas là. Il dit, il faut qu'il croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que déjà, c'est le croyant que Dieu cherche, c'est le croyant qui n'est pas content de lui, mais qui cherche Dieu, qui s'approche de Dieu, qui le cherche, et il sait que c'est de lui qu'on reçoit. Et il se concentre sur la personne de Dieu. La foi est nécessaire, et il faut croire que Dieu existe, c'est sûr, c'est un bon commencement. Mais il faut aussi confesser qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, vous vous rappelez, on a dit ce que Jésus a dit à Nicodème. Il lui a dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Croit en lui, c'est pas croire. Quiconque croit ne périt point. Non, quiconque croit en lui. Maintenant, je vous pose la question. Lui, là, c'est Dieu ou c'est Jésus ? Quand il l'a dit. Eh bien, je lis encore le verset dans Jean, chapitre 20, verset 31, Jean 20, verset 31, okay, où il dit, le résumé, il a dit, toutes ces choses ont été écrites pour vous dire une chose. Il nous dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est-à-dire, Jean, il se distingue des autres évangiles dans le sens qu'il veut présenter Jésus-Christ. Et il a pris quelques miracles, quelques exemples, mais pour en mettre en valeur, pas la puissance de Jésus, parce que là, il aurait pu trouver beaucoup de choses, mais pour mettre en valeur la personne de Jésus. Et c'est là la clé de ce qu'on va dire ce matin. C'est que c'est pas... Il y avait toutes ces personnes qui venaient vers Jésus, il y avait des foules qui voulaient être guéries, mais ils faisaient appel à la puissance de Dieu par Jésus. Et ça, ça ne donne pas la vie éternelle. Ça donnait une solution au problème immédiat, mais ça ne donnait pas la vie. Prends l'exemple, vous vous rappelez, il y avait 10 lépreux, et 10 lépreux, tous d'une même voix, comme une chorale, « Seigneur, aie pitié de nous !» Il a dit, « Allez-vous montrer au sacrificateur ?» En route, ils sont guéris, ils se regardent, « Tiens, c'est parti, j'ai plus de tâches, waouh !»« Je vais aller voir ma femme, je rentre à la maison, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus !» Et puis il y en a 2 qui partent chez eux. Et il y en a 1 qui s'arrête et dit, mais oui, bon, c'est vrai qu'on a demandé d'être guéri, mais oui, mais c'est la personne qui m'intéresse. Et il a fait demi-tour, il est retourné voir la personne de Jésus. Avant, il avait fait appel à la puissance de Jésus. Vous savez, de nos jours, il y a toutes sortes de mouvements dits chrétiens où on parle de la puissance de Jésus. Alors, puissance pour guérir, puissance pour ceci, puissance pour parler du charabia, comme s'il fallait le Saint-Esprit pour parler du charabia. Et puis, il y a toutes sortes de choses. Et pour de venir à Dieu pour qu'il vous rend prospère, et tous ces messages circulent de partout. Eh bien, vous savez, basé sur ce que je comprends de l'Évangile, eh bien, j'ai comme l'impression que Jésus dirait, écoutez, vous êtes à côté. C'est gentil que vous soyez des croyants, mais vous n'êtes pas meilleur que ces foules de Palestine qui venaient et qui le suivaient et qui voulaient bénéficier des pouvoirs qu'il avait en lui, le pouvoir de sa parole, le pouvoir de son toucher, le pouvoir de... Et vous savez, mais c'est pas ça qu'on veut. Et c'est pas ça la réponse pour nous. Et c'est pas ça qu'on trouve la vie éternelle. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Bon, tout bon catholique croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Il le répète, mais qu'est-ce que ça veut dire, croire que Jésus est le Fils de Dieu? En fait, dans 1 Jean 4, hein, parce que c'est l'apôtre Jean qui met en valeur cette transition entre la croyance, Jésus était en train de faire ressortir ce manque de foi qui existait en Israël, alors qu'ils étaient contents d'eux. Et l'apôtre Jean, il fait cette transition. Et lorsqu'on arrive dans les apôtres, dans les actes des apôtres, et puis on arrive dans les épîtres, on a l'impression que c'est la foi, c'est autre chose. Et il dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. 1 Jean 4, 15. Il dit, confesser que Jésus est le Fils de Dieu, croire tout ce que cela implique, tout ce que cela représente. Ce n'est pas juste une question de, bah oui, je crois. Et puis tu le dis, et bah je crois. Non, c'est vraiment croire, c'est-à-dire placer confiance. Il y a un exemple qui remonte assez loin, mais c'est, apparemment c'était une vraie situation. Il y avait un fameux équilibriste aux États-Unis qui a tendu un câble au-dessus des chutes du Niagara. Bon, il n'y a pas si longtemps, j'ai été dans les gorges du Verdon, et puis j'ai vu quelqu'un aussi qui avait tendu un câble au-dessus des gorges, et puis qui allait traverser comme ça. Bon, je ne suis pas resté pour voir, parce que rien que d'y penser. Mais cet équilibriste avait tendu ce câble au-dessus des chutes du Niagara, puis bon, comme font les équilibristes, hein, puis il est sorti, il est revenu. Tout s'est bien passé. Ensuite, il a pris une brouette. Il a pris ça, puis il a traversé avec sa brouette, puis il est revenu. Et puis, bien sûr, les applaudissements, bravo, c'est extraordinaire, tout ça. Mais ensuite, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, vous croyez que je peux mettre quelqu'un dans la brouette et partir et revenir? Les gens disaient, oui! Bon, il a dit, un volontaire. Après, oui. Et il m'a dit, oui, mais il y a beaucoup de gens qui croient comme ça. Oui, tu peux le faire. Mais est-ce que tu me fais confiance? Je ne sais pas. Hein. La vie, elle est dure. Et puis, si en plus, s'il faut être honnête, après, c'est difficile de gagner sa vie si on est honnête. Et oui, mais surtout si on n'a pas confiance en Dieu. Hein. Jésus avait rencontré beaucoup de monde qui croyait en la puissance de Dieu. Mais ce qu'il recherchait, c'est des personnes qui croyaient en lui, sa personne. Vous savez, c'est pas parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu et puis il m'a guéri ou il a pourvu, c'est pas pour ça que je suis sauvé. Hein? C'est comme si un étudiant, il a fait sauter un bouton sur sa chemise et puis lui, il a rien pour remettre ce bouton-là et puis il le faut à tout prix. Et il trouve quelqu'un, une jeune fille qui a ce qu'il faut et puis il lui demande, s'il te plaît, tu ne peux pas recoudre mon bouton, j'en ai besoin. C'est pas une demande en mariage. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est son talent de pouvoir recoudre le bouton et puis ça y est. C'est pas une demande à main. Mais il y a des gens qui pensent que rien que parce qu'ils ont demandé à Dieu à quelque chose, il a rendu service, que ça y est, c'est un mariage, on est lié et on est engagé pour toujours. Non, 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 non. Ça, c'est une autre décision. Hein, quand on vient à Dieu, on dit, Dieu, je reconnais qui tu es, je reconnais qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour moi et ce que cela implique et je m'engage avec lui. C'est ça la différence. Vous savez, la puissance de Dieu, c'est la foi des uns en la capacité de Dieu de faire des choses, ça ne change rien à la puissance de Dieu. Hein. Vous avez ces guérisseurs qui circulent, il dit, si vous croyez, vous serez guéri. Et si vous n'êtes pas guéri, c'est que vous avez manqué de foi. Donc c'est votre faute n'importe comment. Mais quand je regarde à Jésus, quand il a rencontré le fils unique de la veuve, ni le fils unique n'a cru, ni la veuve n'avait rien demandé. C'est Jésus qui s'est approché puis il l'a ressuscité. Il n'avait pas besoin, il n'avait besoin à la foi de personne. Il suffisait que lui veuille guérir, ressusciter, il l'a ressuscité. Quand il est sur la barque avec les disciples, tous ces minces, les apôtres, vous rendez compte. Et il y avait cette tempête, la barque se remplissait, et puis finalement ils ont réveillé Jésus. Jésus, mais tu es comme ça, tu es inconscient, tu ne te rends pas compte. On va tous mourir. Et Jésus leur dit, mais où est votre foi, hein? Vous n'avez pas de foi. Mais ça n'a pas empêché Jésus de dire à la mer de se calmer et au vent de s'arrêter. Il n'avait pas besoin de la foi des apôtres pour pouvoir mettre le calme sur la mer. Vous savez, Dieu est puissant sans nous. Et c'est, notre foi ne déclenche rien du tout chez lui. Mais pour le salut, je dois placer foi en Jésus-Christ. Qui il est, sa personne. Le centenier s'est intéressé à la personne de Jésus. Il a dit, je sais qui tu es, il suffit que tu dises une parole et mon fils, mon serviteur sera guéri. Je sais qui tu es. Et lorsque je regarde dans l'évangile de Jean, je vois tout au long de ce chapitre, ce livre, eh bien, des références à la foi, je dirais la foi sotériologique, la foi qui donne le salut. Il y a, je crois en Dieu, je crois que Dieu est puissant, je sais que Dieu peut faire de grandes choses, je sais que Dieu est amour, je sais, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ça qui sauve. C'est ce que je pense de la personne de Jésus-Christ, ce qu'il représente pour moi. Et chacun de nous dit, mais qui est Jésus pour moi? Jean chapitre 3, j'ai la Bible ouverte là, Jean chapitre 3, verset 15, il dit, quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, qui croit en lui. Verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est croire en Jésus. Jésus a toute une longue discussion dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Et ça discute, jusqu'au moment où elle dit, le Messie. Il dit, mais je le suis, moi qui te parle. Moi, je le suis. Il parle, c'est la personne. Il dit. Et là, tout d'un coup, tout est changé. C'est plus la même dame. Au grand étonnement du village. Je prends l'exemple de, vous savez, l'homme aveugle-né, Jean chapitre 9. Jésus vient, met de la boue sur ses yeux, lui dit, va te laver. Il va se laver, il revient voyant. On lui dit, qui est-ce qui t'a guéri? Il dit, un certain qui s'appelle Jésus, je ne sais pas qui il est. Il s'appelle Jésus parce qu'à l'époque, c'est un nom courant, Josué, et puis il y a plein de Josué. Il dit, c'est un certain qui s'appelle Jésus. Vous connaissez l'histoire, et puis il se fait chasser de la synagogue, et Jésus se présente à lui, bien sûr, il ne l'a jamais vu, donc il voit un homme, mais il ne sait pas qui c'est. Il dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il dit, c'est qui, Fils de Dieu? Eh bien, ils disent, je le suis, moi qui te parle. Un peu la même réponse que pour la femme samaritaine. C'est question de moi. Et là, à l'instant même, l'homme l'adore. Tout d'un coup, il dit, toi, parce qu'il venait de dire aux anciens dans la synagogue, il venait de leur dire, pour moi, cet homme, vous ne savez pas qui il est, d'où il vient, mais moi, j'ai une forte impression qu'il vient de Dieu. Et il commence à croire en la personne qui l'a guéri. Et Jésus se présente à lui, il dit, je suis le Fils de Dieu. Et il l'adore, il est prêt. C'est une question de relation avec la personne. Et c'est ça que Jésus avait dit au dixième des dix lépreux. Il est revenu et il a adoré la personne de Jésus. Vous savez, c'est ça qui fait la différence. On peut remplir des salles avec des gens croyants. Mais ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Paul reçoit la question du geôlier de Philippe. Et le geôlier dit, qu'est-ce que je dois faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Jésus lui dit, Paul lui dit, crois. Non, pas dit pas crois. Il dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et il pousse jusqu'à croire. Et croire, vous savez, quand on croit, on fait confiance, on mise tout sur lui. Quand j'ai vraiment cru, c'est-à-dire je mise toute ma vie. Moi, c'est lui ou bien c'est l'échec total. Mais je place toutes mes billes chez lui. Tous ses œufs, tous mes œufs dans ce panier-là. Ça, c'est croire en Jésus-Christ. C'est-à-dire que je crois que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était pour mes péchés. Et si Dieu s'est détourné de lui, c'est parce que mes péchés étaient réellement là. Et ensuite, après, Jésus a pu dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ah, la communion était rétablie. Ça veut dire que le péché a été pardonné. Alléluia ! Et puis en plus, Christ est monté, il a dit « Je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit. » Christ est monté, 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu. Et puis après, nous avons le témoignage de chrétiens depuis, comment Dieu a pourvu. Mais c'est parce qu'ils ont cru en la personne de Jésus-Christ. Sinon, vous avez bien plein de chrétiens malheureux dans le monde. Et que, de toute apparence, ils pourraient être des athées. Vu la manière dont ils vivent, la manière dont ils se font du souci sur certaines choses, la manière dont ils paniquent. On dit, mais c'est pas des croyants. Mais celui qui a confiance en Jésus-Christ peut regarder au-delà des tempêtes. Il peut regarder Jésus, comme Jésus-Christ qui a dit, pour la joie qu'il a vue, a enduré la croix. Nous n'avons pas des croix à endurer. Nous avons des épreuves à subir. Mais Jésus a regardé au-delà. Ben, faisons la même chose. Regardons au-delà la joie qui l'attendait. Et nous pouvons aussi, par la foi, voir cette joie que nous attendons. Parce que nous avons passé notre foi en Jésus-Christ. Donc, le croyant, pour être sauvé, doit croire en Jésus-Christ, placer sa foi en Jésus-Christ. Et si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, alors il va y avoir un changement total. Donc, on a un croyant transformé, renouvelé. C'est l'expression que je prends de Paul dans le chapitre 12. Il dit, au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Il s'adresse aux croyants sauvés. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Je plaisantais avec Cathy tout à l'heure, mais vous savez, la démarche que vous devez avoir dans votre vie chrétienne, c'est que, puisqu'on est en France, je vais dire un Français perdu. Vous avez entendu l'Évangile, vous devenez un Français chrétien. Et après, le Saint-Esprit commence à œuvrer en nous et je deviens un chrétien français. C'est-à-dire, c'est le côté chrétien qui prend le dessus. Mais je ne renie pas mes origines, pas plus que Paul a renié le fait qu'il était juif. Et donc, on ne renie pas ses origines, mais le truc, c'est que je suis plus chrétien que français. Et pratiquement, ça veut dire que je réagis dans des situations, je vais réagir en tant que chrétien avant de réagir comme un français. Ah, c'est dur, ça. Oh, là, on dit, ah, c'est pas tous les jours que j'arrive. Certains domaines, certaines situations contrôlées, j'arrive à réagir comme un chrétien. Mais il y a des moments où je réagis comme un bon français. Je ne vais pas aller là, je ne vais pas décrire ça. Vous pourrez aller sur Internet voir ce que c'est qu'un français. Mais vous savez, c'est une transformation. C'est parce que j'ai cru que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mon péché et qu'il est ressuscité pour ma justification, afin que je puisse recevoir sa justice. Et si j'ai reçu sa justice, eh bien je dois me comporter comme quelqu'un qui a reçu sa justice. Ça ne va pas être à la perfection, non. Mais vous savez, celui qui emploie ça toujours comme excuse, dit « Oh, personne n'est parfait ». Vous savez, on l'entend tout le temps, « Personne n'est parfait ». Mais ça, on a presque l'impression que c'est une excuse pour de la médiocrité. Et ça, c'est pas bon. C'est une constatation que c'est pas parfait, mais je vais toujours travailler sur pour aller de mieux en mieux. Plus en plus à l'image de Jésus-Christ, puisque c'est son intention, que nous soyons tous transformés à son image. Eh bien alors, pourtant, on travaillait maintenant. Et ça arrangerait mon épouse, vous savez, si j'étais plus comme Jésus-Christ. Et puis ça arrangerait vos voisins. Puis peut-être votre pasteur aussi. Parce que là, vous savez, on serait dans une église où on cherche le bien de tous, plutôt que de tirer la corde selon ses préférences personnelles. On serait tous en train de dire, c'est le nom de Christ qui nous intéresse. Que Christ soit glorifié. J'ai des préférences, j'ai des trucs, j'aimerais que ça soit comme ça ou j'aimerais comme ça. Mais je préfère surtout que Christ soit honoré. Hein? C'est là. Parce que si on commence chacun à ses préférences, ben après ça ressemblera à l'Assemblée nationale. Hein? Et ça, c'est pas, c'est là-bas, hein? C'est pas ici. C'est à Paris, ça. Ici, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et au Christ, tous nous regardons à Christ. Et puis on est tous un peu français, mais un peu français différemment. Ça, c'est bon, ça fait partie des couleurs. Hein? Mais sinon, c'est Christ, c'est avant tout le nom de Christ. Et de s'aligner derrière l'homme que Dieu a choisi pour nous conduire. Et dire, je veux servir Christ. Parce que je ne suis pas juste croyant, je suis croyant au Fils de Dieu, je suis sauvé. Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Vous savez ce que ça veut dire, passer ? C'est que vous avez raté le train, il est passé. Ça veut dire qu'il n'est plus là, on voit la queue, puis la queue disparaît. Les choses anciennes sont passées. Je vais pas vous demander de vous dire jusqu'à où c'est passé, parce qu'après il faudrait que je parle de moi-même, et je ne veux pas le faire. Donc, mais la question c'est, combien de choses sont passées ? Dites les choses anciennes. Tout ce qui caractérisait ma vie de péché, mais mon égoïsme, mes intérêts personnels, tout ça, ces désirs-là, ben c'est passé. Maintenant, ce que je désire, c'est ce que Christ désire. Et la première chose qu'il désire, c'est que tous soient sauvés. Et ce qu'il désire, c'est que ceux qui sont sauvés soient transformés. Ce qu'il désire, c'est que je m'intéresse à le connaître. Et donc, je plonge les regards dans la parole de Dieu. Vous êtes tous des saints, là, ce matin. Hein. Je vois tous des saints parfaits. Il n'y a pas de défaut, rien du tout. Vous êtes beaux. Mais c'est certainement vrai aussi, parce que je suis perspicace. Mais la question, c'est... Vous savez, si vous voulez la formule de comment ressembler aux gens du monde... Eh bien, arrêtez de lire la Bible. Et laissez faire les choses. Ne lis plus la Bible, je prie plus, je me laisse aller. Et vous allez ressembler à n'importe qui dans la rue. On a besoin de prendre le temps dans la parole, de l'étudier, non pas pour pouvoir... justement, à ce verset, j'aimerais bien que ce frère-là, il lise ce verset-là. Hein, non, lire pour moi-même. Hein, même moi, en tant que pasteur, il y a un temps où je suis en train de préparer des sermons pour les autres, mais je dois prendre un temps pour moi-même. Sinon, c'est pas bon. Hein. Sinon, je vais ressembler à n'importe qui d'autre. Il nous dit la volonté de Dieu. Eh bien, il nous dit, c'est de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, le 21e siècle pour nous, hein, de ne pas se conformer au 21e siècle, dans ses pensées, dans ses désirs, dans son... Et il dit d'être transformé, métamorphosé, avec le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire je ne pense plus comme je pensais avant, je pense autrement, je pense selon un autre système céleste, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. C'est vraiment, c'est ça que nous cherchons. Et c'est à la portée de chacun d'entre nous. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y avait dans votre passé. L'avenir, c'est devant. Et par le Seigneur Jésus-Christ, en plaçant mes yeux sur lui, eh bien, je peux aller de l'avant. Et ce n'est pas juste une question d'être sauvé, alléluia, je suis sauvé, mais c'est une question de maintenant vivre pour lui. Et que par mon témoignage, d'autres soient attirés à lui. Je lisais ce matin, dans ma méditation personnelle, il nous dit, quand il nous dit que nous sommes des lettres pour le monde qui nous entoure, nous sommes des lettres de Dieu, nous ne sommes que le papier, c'est lui les mots. Mais il a dit, mais vous savez, quand vous envoyez une lettre, et puis le papier il est chiffonné, puis il est sale, il est taché, c'est pas aussi agréable de lire la lettre que lorsque c'est du beau papier propre. Et donc, nous sommes des lettres lues par tous. Mais il dit, mais au moins que le message soit sur du papier propre, pour qu'ils aient envie de le lire. Baissons nos têtes, nous allons avoir quelques moments de silence, et ce que le Seigneur aura pu vous donner, eh bien, et si vous avez prié, dites Seigneur, tu m'as parlé sur ce point-là, et je veux le régler, je veux voir ça avec toi, déjà maintenant, mais après je reviendrai pour voir avec toi plus tard. Je vous donne un moment de silence, ensuite, après quoi je prierai. Père Céleste, ton amour est extraordinaire parce que ton amour peut aimer les pécheurs et tu nous as aimés lorsque nous étions encore ennemis et tu as donné ton Fils. Et ce Fils qui était si précieux pour toi, tu as tout mis en lui. Toute ton affection était en lui. Et tu l'as envoyé chez nous pour nous dire combien tu nous as aimés et combien tu comprenais que notre situation était impossible. Et tu as pu le laisser mourir sur la croix afin qu'il porte nos péchés. Et ensuite, tu l'as ressuscité afin de pouvoir nous ressusciter. Et un jour, nous pourrons être dans ta présence. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous as laissés sur terre, ce n'est pas pour tester notre foi, c'est pour que nous puissions vivre notre foi. Et que le monde voit qu'il ne suffit pas d'être croyant, mais il faut en plus croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comme tu le comprends, comme la Bible l'enseigne. Seigneur, oh, nous avons besoin d'être transformés, renouvellement de l'intelligence, et de vivre pour toi, et que nous puissions être des lettres avec un papier digne de la lettre. Père, fais ton œuvre chez chacun d'entre nous. Nous sommes à des stades différents, nous avons des besoins très différents, nous avons des préoccupations très différentes. Mais Seigneur, accorde à chacun, par ton esprit, juste la parole qu'il lui faut, pour l'encourager cette semaine. Seigneur, que celui qui est chargé, ben, qu'il soit soulagé. Que celui qui doute, soit rassuré. Que celui qui a peur, bien, qu'il soit encouragé, qu'il ait une promesse pour le soulager dans sa peur. Celui qui craint l'avenir, bien, qu'il puisse voir l'avenir en toi. Seigneur, je te prie pour chacun. Et je te prie pour cette Église. Que tu la bénisses. Tu as déjà fait des belles choses. Et ces personnes-là représentent une œuvre que tu as faite dans cette ville, dans cette région. Seigneur, continue ton œuvre. Et que ton nom soit glorifié. Je te prie pour ton serviteur qui est ici, sa famille. Seigneur, que tu les gardes. Que tu le maintiennes. Et que Seigneur, lui aussi, tu lui accordes la sagesse pour prendre soin de tes brebis. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.